Le journal Adia Chipoukou. Au sommaire de ce journal, le naufrage d'une pirogue motorisée hier lundi sur le lac Kivu, près de l'embarcadère de Kitutu à Goma. Deux corps ont pu être repêchés, mais 30 personnes sont encore portées disparues. Situation humanitaire préoccupante à Bafoué-Séndé en province orientale. Près de 300 déplacés, parmi lesquels des blessés de guerre et des femmes violées vivent dans des conditions précaires. Constat d'une délégation mixte au Tiamonuk et le Fonds des Nations Unies pour la population qui s'est rendu hier sur le lieu en vue d'évaluer la situation. Bras de fer à Mbujimayi entre la MIBA et le ministère des Affaires foncières. À la base, la décision par ce ministère de lotir une concession de la MIBA. Plus d'une centaine de familles sont menacées de déguerpissement. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et ouvrons tout de suite ce journal au Nord Kivu où plus de 30 personnes sont portées disparues dans un naufrage d'une pirogue motorisée hier lundi. Cela s'est passé sur le lac Kivu près de l'embarcadère de Kitutu à Goma. La pirogue venait de la localité de Kibirwa en territoire de Kalehe au sud Kivu. Elle transportait des vivres et une centaine de passagers vers le marché de Kitutu à Goma. Selon le commissariat maritime de Kitutu, seuls deux corps ont pu être repêchés jusque-là, parmi lesquels un enfant de 9 mois. L'état défectueux de la pirogue et le mauvais temps seraient à la base de cet accident. Sur place, à l'embarcadère de Kitutu à Goma, Sylvestre Kilolo.
Les passagers à bord du bot effectuaient un trafic régulier en vue d'approvisionner les marchés de Kitutu en produits vivriers. Quelques temps après leur décollage de Kibirwa, localité du site Kivu en face du marché de Kitutu, les bottes qui, selon la police maritime, étaient en voie de délabrement, n'a pu résister à une forte vague et a sombré dans l'eau du lac. C'est grâce à l'intervention de la police, plus d'une heure après, que 14 personnes ont eu la vie sauve, selon des témoignages recueillis par la police maritime à la localité d'où est partie les bottes. Plus de 60 personnes autres qui ont embarqué dans cette pirogue restent introuvables. Notons que le marché de Kitutu reçoit près de 10 bottes deux fois par semaine en provenance de l'île d'Ijui, de Katana ainsi que des différentes localités du territoire de Kalehe, frontalier du Nord Kivu. Et des cas de naufrage surgissent principalement entre le mois de juin et septembre, une période pendant laquelle souffle un vent plus fort que le reste des temps sur le lac Kivu. Cependant, la police maritime dénonce les comités des propriétaires des bottes. Selon cette police, ces comités alignent des vieux bottes tout en combattant de nouveaux membres avec de nouvelles pirogues, ce qui met de plus en plus en danger la vie de nombreux trafiquants sur les lacs Kivu, entre le nord et le sud Kivu. De Goma au marché de Kitutu, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Et puis à Bukavu, dans le sud Kivu, un homme armé et en uniforme a été abattu cette nuit au quartier Ngouba. Selon le bourgmestre de la commune d'Ibanda, ce militaire ainsi que l'un de ses collègues étaient en train de tracasser des civils lorsqu'ils ont été surpris par les habitants. Ces derniers ont rossé son collègue qui a été sauvé de justesse par une patrouille des FRDC. Et le militaire lui-même a reçu une balle alors qu'il tentait de s'enfuir en tirant des coups de feu en l'air. Suivez le témoignage de Jonas Moutiki Lutala, bourgmestre de la commune d'Ibanda, au micro de Didas Namujimbo.
Les hommes en uniforme qui étaient armés et qui avaient déjà érigé de barrières. Il y a des passants qui avaient été victimes, même un démobilisé qui était aussi une victime. Il s'est jeté sur un de ces malfrats. Il a ravi directement l'arme qui possédait un revolver. La population est venue. Quand il a crié, on a tabassé copieusement ce malfrat. C'est un sous-lieutenant connu sous le nom de Leblanc et il a été acheminé à l'hôpital. Le second malfrat qui était dans ce même groupe, dans sa fuite, il y a eu des coups de balles qui lançaient un peu partout. Mais la population l'a poursuivi. Les militaires de garde vers la frontière Ruzizi 3 sont venus aussi intervenir et il y a eu échange de tirs et il en a eu pour son compte. Les enquêtes ont été menées et l'auditorat militaire a donné l'ordre de lever des corps.
Des hommes armés tracassent aussi les habitants de Lubutu, à plus de 400 km au nord de Kindu. Là-bas, la population vit dans l'insécurité ces derniers temps. Celle-ci est causée par la présence des Maïmaï qui s'étaient auto-démobilisés vers la fin des années 2004 et celle des éléments de la 8e région militaire en provenance de Walikale dans le Nord Kivu. À cela s'ajoute un groupe des Simba sous le commandement du colonel Milan qui vient de faire un repli dans le parc de la Maïko. Ces Simba s'étaient regroupés à Mungi délai pour atteindre le brassage qui malheureusement tarde à venir. Je vous propose d'écouter cette fois-ci l'administrateur de territoire de Lubutu, M. Jean-Pierre Yanni Lokwa. Il est au micro de Mathieu Ilunga Monachibé.
Un capitaine qui est venu de la 8e région militaire, ils sont basés à Biroué, ils avaient des roquettes, on les a accueillis, ils sont partis. Le lendemain, ils ont fait asseoir par terre notre chef de secteur, de Bitoul. Ils ont fait flageller notre chef de groupement. Ils ont tapé sur le président de FEC. Dernièrement, ils sont venus jusqu'à 45 km de Lubout, à Bitoul, au chef-lieu du secteur. Il y a de l'insécurité avec la forêt de Maïko qui a toujours constitué une réserve pour des récalcitrants qui sont hors la loi. Il y a une population, les Maï Maï, qui sont des auto-démobilisés, qui gardent encore leurs armes, qui sont en contact avec les Simba qui sont dans la forêt de Maïko, etc. Et qui sont là, qui s'y sont rendus sans remettre leurs armes. La population risque même de fuir, mais moi-même je risque de fuir. Il y a cette menace-là.
Signalons que 600 Simba qui attendent leur brassage à Mungele ont écrit leur mémorandum aux autorités provinciales le 31 août dernier. Eux aussi menacent de rentrer dans la brousse où, estiment-ils, ils vivaient plutôt mieux qu'à Mungele. Il est 12h06 à Kinshasa, une heure de plus à Kisangani dans la province orientale. Situation humanitaire préoccupante à Bafoua-Séné en province orientale. Ce territoire situé à plus de 260 km à l'est de Kisangani accueille actuellement des déplacés en provenance du poste administratif d'Opiengé. Cette localité a été le théâtre d'affrontements le mois dernier entre les FRDC et les Maï Maï. Près de 300 déplacés ont été recensés par des ONG locales. Parmi eux, près de 50 blessés de guerre, des femmes victimes de viol, ainsi que des personnes souffrant de la diarrhée. Ils sont démunis de tout et vivent dans des conditions difficiles. Une délégation mixte Otchamonuk et le Fonds des Nations Unies pour la population s'est rendue hier sur le lieu en vue d'évaluer la situation. Archibald Moïwo, officier des affaires civiles de la Monuc, explique. Il est au micro de Dorcas Kanko.
Il y a 257 déplacés qui sont venus de Opiengé, qui se trouvent à Bafoua-Séné. Vraiment, il manque toutes les choses. Il n'a pas les couvertures, il n'a pas les nourritures, il manque même l'accommodation. Il y a 44 cas de blessés de balles, selon le docteur Moutabala. Et encore, il y a 18 cas de viol qui étaient déjà notés dans l'hôpital de Bafoua-Séné. Et il y a 55 cas et 4 décès dans le village de Bafoua-Séné. Ça, c'est 18 km de Bafoua-Séné.
Qu'est-ce que vous comptez faire?
Nous allons contacter, par exemple, OMS pour la situation de diarrhée à Bafoua-Séné, UNICEF pour la situation de le problème de couverture, et peut-être PAM pour l'alimentation ou la nourriture. Nous allons contacter UNFPA pour envoyer le kit pour aider les victimes de viol.
C'est justement pour soutenir les Congolais dans le sens de la résolution de la crise humanitaire qui sévit le pays que le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires est arrivé depuis ce matin à Kinshasa. Jean Egelan s'entretiendra avec les autorités congolaises, les responsables de la MONUC ainsi que des agences des Nations Unies à Kinshasa. Sa mission le conduira également dans quelques provinces à l'intérieur du pays. Deuxième jour de rentrée scolaire ce mardi en RDC, à Guadolite, à l'Équateur. Toutes les écoles ont ouvert les portes, cela sans l'arrangement préalable entre les parents d'élèves et les directions sociales. Celles-ci entendent organiser des rencontres avec les comités des parents qui ont toujours offert leur collaboration pour harmoniser les vues, cela en attendant le geste du gouvernement. De Guadolite, un récit de Daniel Tambinzoni.
Comme en unisson, les chefs d'établissement rencontrés se disent fidèles au programme national et n'accepterait en aucun moment de causer préjudice au devenir intellectuel de l'enfant congolais de Guadolite. Hier lundi, les anciens et nouveaux élèves se sont vus répartir les salles de classe. Aujourd'hui, les premières leçons sont dispensées dans certaines écoles. Une chose est à signaler, les élèves rencontrés sur le chemin de l'école ne seront de l'homme de la rue, parce que pas d'uniforme bleu-blanc, un ou deux cahiers seulement en main, sans cartable. Les élèves qui croyaient par ailleurs voir les anciens observer les mots d'ordre de leur syndicat sont très contents de les voir se mettre au travail dès le premier jour. Cette satisfaction a été également celle de M. Sylvain Diako Taguiré, le chef de la sous-division provinciale Nord-Ubangi. Guadolite, Daniel Tambinzoni, Radio Okapi.
Direction Bougimaï, dans la commune de la Canchy, plus d'une centaine de familles sont menacées de déguerpissement par la société minière de Bakwanga, Miba en sigle. La société fait valoir un titre de propriété et conteste la décision du ministère des Affaires foncières du 3 juillet dernier, décision qui autorise le lotissement de la concession. Le parquet général a mobilisé tôt ce matin des forces de police pour empêcher les destructions. Le point avec François Chimbenji.
C'est en pleine concession de la Miba au cœur de la ville d'Mbujimayi qu'une centaine de policiers réquisitionnés par le parquet général de la ville sécurisent depuis ce matin une centaine de familles. Après avoir acquis leur titre foncier en toute légalité, ces nouveaux acquéreurs voient leur construction menacée. En effet, dans un communiqué officiel, la minière de Bakwanga demande la suspension immédiate de tous travaux en rappelant qu'elle est seule propriétaire de cette concession. La Miba conteste un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 lui retirant ses droits de propriété. Selon Félix Kitombolé, chef des divisions des affaires foncières, la Miba n'a pourtant pas répondu à ses obligations de propriétaire. D'abord, la société n'a pas mis en valeur la concession dans les 3 années légales. En outre, il est reproché à la société d'avoir elle-même procédé à la distribution des parcelles sans en avoir référé aux services administratifs. L'État se réserve ainsi les droits de récupérer la parcelle. La Miba déclare introduire un recours auprès du ministère des affaires foncières. Mbujimayi, François Chibenji, Radio Okapi.
Quittons le Kasaï oriental pour l'occidental. Désormais, les chefs coutumiers ou chefs de groupement de cette province ne peuvent se déplacer sans l'autorisation de leur hiérarchie. C'est la décision du gouverneur de province. Gilbert Tshingou a constaté que ces chefs coutumiers et de groupement passent plusieurs mois en dehors de leur circonscription de compétences. Selon lui, ces déplacements influent négativement sur l'encadrement des populations et entretiennent la persistance des conflits coutumier. Gilbert Tshingou explique au micro de Willy Kalumbo.
Plusieurs de nos chefs coutumiers abandonnaient leur poste pour diverses raisons. Il y en a qui passaient ici 3, 4, 5 mois sans raison plausible. Or, être un chef coutumier, c'est une grande responsabilité. C'est la base même du développement de notre pays, de notre province. Et certains d'entre eux ignoraient même l'existence, par exemple, des statuts de leur alliance. Or, s'ils s'informent bien des statuts de cette alliance, ils verraient bien qu'ils ne pourront pas faire ce qu'ils font là, en abandonnant les populations à leur propre sort. On ne défend à personne de venir au chef-lieu de la province, on ne défend à personne de venir se faire soigner si cela est nécessaire, mais il faut toujours se couvrir des autorisations préalables des chefs de secteur, des administrateurs des territoires.
Et puis, signalons en passant cette action de la SNEL au Katanga, elle entreprend la réhabilitation de la ligne haute tension qui amène le courant Dinga vers les pays d'Afrique australe. Cette ligne a été endommagée depuis le 14 juillet 2006 par des individus qui avaient scié 11 pylônes. Ces malfrats avaient volé par la même occasion près de 2000 mètres de câbles haute tension. Le coût des travaux est estimé à près de 300 000 dollars américains. Parlons à présent de l'inauguration hier lundi de la radio communautaire de Manono dans le nord du Katanga. Ce projet a été financé par la MONUC. Pour le chef de bureau de la MONUC Kalemi qui a présidé la cérémonie, la radio communautaire de Manono permettra de désenclaver le territoire et d'œuvrer à l'éducation civique de la population. Monsieur Amini Al-Mounim le dit au micro d'Ile-d'Elphonse Kitenge.
Des communautés, c'est très important, comme a bien dit l'administrateur, surtout à ce moment-là où nous sommes en tête dans le processus électoral et que la sensibilisation de la population pour être civique, pour que ces élections aillent au bon port sans qu'il n'y ait pas de haine ethnique. Et ce doit être l'effort radio que vraiment la communauté internationale, ils ont mis beaucoup d'efforts pour voir que la démocratie dans votre pays arrive à changer les mentalités de la population. Avec ça, c'est ça qui va vous permettre d'aller en avant dans le développement économique de votre pays. C'est ça, c'est ces élections-là qui vont donner votre image au niveau international.
Toujours dans le cadre des projets à impact rapide, sachez que la MONUC Kalemi a également réhabilité l'hôpital général de référence de Manono en réfectionnant la toiture. Cet hôpital a reçu aussi une trentaine de matelas et un système scolaire complet. Un petit rectificatif, il s'agissait plutôt d'un système solaire complet. Alors la page internationale reste dominée notamment par cette première visite du président russe en Afrique du Sud. Vladimir Poutine est arrivé ce matin au Cap. Il doit en principe rencontrer en milieu de journée son homologue sud-africain Thabo Mbeki. Selon le Kremlin, l'objectif central de cette visite est de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays, relativement faibles à ce jour. Demain mercredi, M. Poutine va visiter la bagne de Robben Island au large du Cap où Nelson Mandela a passé l'essentiel de ses 27 années de prison avant de devenir en 1994 le premier président noir de l'histoire de l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au Capi. Au Capi.